tous ces coupures de presse, tout le monde en a entendu parler, des termes, très angoissants quelque part, traitements prescrits par des médecins dont le nom circule sur le manteau, donc on a une épidémie cachée, c'est sûrement dit quelque part, on a énormément de témoignages, c'est un problème de santé majeur qui serait minimisé par les autorités, les patients seraient laissés seuls et à l'abandon, il faut aller à l'étranger pour se faire soigner, il faut se faire passer pour un chien pour avoir un test efficace parce que les vétérinaires auraient un tel test, on a les tests français, bon ça a été dit, je vais revenir largement sur les tests. Voilà un peu le tableau qui nous est présenté à travers la presse sur donc un scandale sanitaire qui serait masqué. Je prends juste un exemple, pas pour cristalliser du tout sur la personne. Encore une fois, il faut avoir la plus grande reconnaissance sur les personnes qui souffrent, mais pour tirer le fil de qu'est-ce qu'il y a derrière, pour essayer de l'expliquer derrière. Donc vous avez quelqu'un qui a été, il n'y est pour rien, bien sûr, largement médiatisé. Donc le petit Jules, mais peu importe. Le couple se bat, donc ses parents, pour trouver une réponse dans la clinique du docteur Bock à Red Hook dans l'État de New York. 20 000 euros à chaque fois pour y aller. Donc appel à la générosité publique, mais ça passe sur les grandes télévisions, avec recueil de fonds, etc. Ça fait 2 ans que ça dure, donc on est à plusieurs centaines de milliers d'euros qui ont été mis en œuvre. Et donc il a besoin des soutiens financiers et, si on peut estimer ça bien, mais on va voir ce qu'il y a derrière, effectivement un appel à la générosité des tas de gens qui donnent pour payer des centaines de milliers d'euros pour un traitement qui ne serait pas pris en charge en France et dont le petit garçon devrait donc forcément aller aux États-Unis pour trouver enfin à quelques centaines de milliers d'euros la réponse qui va. Donc j'ai creusé un petit peu le sujet en me disant mais c'est quoi les soins qui sont prodigués dans cette clinique américaine que nos collègues, je ne suis pas médecin, donc nos médecins en France ne sauraient pas prodiguer et qu'il faudrait aller chercher là-bas. Donc on la retrouve sur Internet, cette clinique. Et bon, en gros, elle nous explique qu'il y a un grave problème complexe d'immunition immunitaire. Donc j'ai mis à droite tout ce qu'on peut retenir, parce que quand on voit sur le site, on a du mal à comprendre tout, y compris quand on est un peu spécialiste. Mais grosso modo, on traite à peu près tout, qui sont le Lyme, la fibromyalgie, l'asthme, les allergies, l'autisme, etc. Les méthodes mises en œuvre sont une médecine holistique, intégrative, dont on va trouver la chélation, la détoxification et des tas d'autres traitements du genre. Et il est expliqué l'argumentaire sur la maladie de Lyme qu'ils font certes des soins antibiotiques, mais on va le voir, c'est pas n'importe quel, c'est des soins antibiotiques au très 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 long cours pour soigner aussi le système immunitaire à travers des micronutriments, des hormones d'équilibrage, des herbes et de l'homéopathie. Donc on a toute une mixture qu'il faudrait aller chercher donc aux États-Unis pour avoir la solution. Et cette clinique, je vais expliquer pourquoi je l'introduis, donc se réclame d'une approche en ligne avec les recommandations d'une association, mais je vais l'expliquer parce que c'est ça qui structure un petit peu toute la controverse, qui s'appelle l'ILAS pour International Lyme and Associated Disease Society. Alors quelques mots, et après ça me permettra d'introduire le contenu de la controverse et de le discuter. Contrairement aux apparences, l'ILAS n'est pas une société savante, au même titre qu'on a évoqué tout à l'heure la société de pathologie infectieuse ou les 24 sociétés savantes qui sont prononcées là-dessus. C'est une société qui se présente d'abord comme une association, dit-elle, de promotion de l'information, mais en fait elle fait la promotion de sa vision scientifique et en fait est très largement axée sur des collectes de fonds, des campagnes d'action en justice et forme toute une série de médecins, en particulier aux États-Unis, qu'on appelle en raccourci les Lyme Doctors, c'est-à-dire des médecins dont la spécialité serait la maladie de Lyme, qui serait une entité à part dans laquelle il faudrait une spécialité particulière que eux donnent dans leur formation. Et leur formation, j'ai expliqué sur quelle base, quelles recommandations elles se réclament. Et donc, surtout leur site, vous y allez. Si vous avez besoin d'un docteur parce que vous pensez que vous avez la maladie de Lyme, eh ben, écrivez-nous, on va vous donner dans votre région les bons docteurs qui vous soignent, etc., etc. Et donc, ils font des formations aux États-Unis, mais à travers le monde, et structure un réseau international comme ça. En France, son représentant officiel, jusqu'à il y a un an, était la Fédération française des maladies vectorielles atypiques. Donc c'était dans l'article 2 de cette association, celle qui était partie prenante des négociations dont on a parlé, et j'y reviendrai, dans la Haute Autorité de Santé, et qui, dans le feu de la controverse, parce que je vais vous expliquer plein de choses sur la maladie de l'ILAT, a discrètement retiré il y a un an la référence à l'ILAT dans ses statuts, tout en gardant exactement la même posture par ailleurs. Alors, quelles sont les thèses de l'ILAT sur la maladie de Lyme? C'est pour ça que je vous remercie vraiment sur la présentation d'avant, parce qu'elle permet plus facilement d'expliquer la nature de la controverse telle que l'ILAT la pose et telle qu'elle est médiatisée aujourd'hui. Grosso modo, elle est de dire trois choses. Premièrement, il y aurait une entité qu'ils appellent maladie de Lyme chronique, même si parfois la terminologie a changé, qui ne serait pas reconnue par la médecine officielle. Donc, je vais revenir après pour expliquer ce que c'est. Ça, c'est le premier point qui est fondamental. Le deuxième point, on va le voir, il va quelque part de pair, c'est que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il existerait une entité qu'on appellerait maladie de Lyme chronique qui ne serait pas reconnue par les autorités officielles, c'est que forcément tout le système de diagnostic officiel, entre guillemets, est défaillant. Et donc au cœur de ce système, les tests seraient inopérants. Alors, c'est compliqué, il ne s'agit pas non plus de tomber dans l'opposé en disant ils sont fiables à 100%, mais vous allez voir le discours qui est mené, je vais le décrire, donc les tests ainsi sont défaillants, et bien sûr, eux auraient des tests qui seraient beaucoup mieux adaptés pour détecter ce que la science officielle, la médecine officielle ne reconnaîtrait pas. Et troisième élément qui structure les thèses de l'ILAT, et donc reprise en France par l'association que j'ai mentionnée tout à l'heure et dans d'autres pays, des traitements alternatifs, dont on verra un certain nombre sont tout à fait inquiétants, mais le traitement central, quelque part dans la controverse, c'est des antibiotiques au long cours, sur des durées largement plus importantes que ce qui a été décrit juste précédemment. Alors, maladie de Lyme chronique, on a envie de dire, mais de quoi on parle ? C'est quoi la définition qu'on est donnée ? Et ça a été dit avant, j'y reviens pas là-dessus. Il y a un consensus général qui est de dire qu'il existe des symptômes qui sont persistants quand on ne traite pas la maladie de Lyme, ça c'est certain. Quelqu'un qui ne va pas être traité va, s'il est réellement infecté, va avoir des tas de symptômes, qui sont pas n'importe quoi comme symptômes, ils ont été décrits tout à fait avant. Et puis quelqu'un qui va être correctement traité, à un certain stade, ça a été décrit avant, va garder en particulier, si j'ai bien compris, dans les stades un peu avancés, un certain nombre, pas de séquelles, mais de symptômes qui vont mettre du temps à se résorber. Et donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait décrit et qui sont des symptômes chroniques. Je reviendrai rapidement sur le mot chronique. Ça, j'ai envie de dire, ça ne pose pas de problème dans la définition. Ça en pose sûrement à suivre, à diagnostiquer, à traiter. Ça, je ne suis pas médecin, mais disons que c'est consensuel. Personne n'a nié ces choses-là. Mais de quoi parle-t-on quand on parle de la maladie de Lyme chronique, ou du moins ceux qui veulent dire qu'il y a une entité médicale nouvelle que les autorités ne voudraient pas reconnaître? C'est autre chose. Je donne quelques définitions. Celle-là, c'est donc le chef de file en France et professeur en région parisienne, c'est Christian Perron, qui dit donc, en gros, la définition, c'est de dire il y aurait des symptômes persistants qui seraient rebelles à tous les traitements. Et c'est pas simplement 6 mois après un traitement, c'est-à-dire on a beau traiter la maladie de Lyme est toujours là et les symptômes sont toujours là, donc on n'arrive pas à traiter cette maladie de Lyme. C'est quelque part ça sur le fond la définition qui est donnée. Donc il faut faire des traitements antibiotiques au long cours, mais c'est pas suffisant parce que on n'est jamais complètement guéri et ça dure. Et alors, en fait, quand on regarde plus dans le détail, la définition que donne Christian Perron, par exemple, dans son livre, c'est des situations médicales qui se présentent sous forme de symptômes polymorphes non spécifiques. Il dit d'ailleurs dans son livre la formule « tout et n'importe quoi », en majorité subjectifs, un malade guéri de la maladie de Lyme chronique rechute dans les 2 semaines qui suivent un grand stress. Donc on est sur quelque chose, qui est d'une autre nature que ce qui a été exposé avant. Je donne, en anglais, mais peu importe, les diapositives seront mises à disposition sur le site, la définition qu'en donne officiellement l'ILAS dans les recommandations qu'elle a publiées. J'expliquerai ce qu'elle a publié et la valeur que ça a. Alors, toujours sur qu'est-ce que c'est que cette maladie de Lyme chronique, entre guillemets, on joue aussi sur le terme chronique. Et je crois que ça, c'est important de l'avoir en tête. Il y a une différence, je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon on est jusqu'à 3 heures d'après-midi, mais entre une maladie chronique et des symptômes chroniques. Et on joue sur le terme, l'ambiguïté du terme, pour développer cette idée de la maladie chronique. La maladie de Lyme chronique, qui est donc le terme promu par l'ILAT, est un terme qui est rejeté pour des raisons qui sont expliquées par l'ensemble des sociétés savantes, parce que, j'ai mis là quelques exemples, on ne sait pas trop bien de quoi ça parle, c'est des choses très mal définies et que ça introduit la confusion en laissant croire que c'est peut-être une vraie maladie de Lyme sur des symptômes chroniques qui sont peut-être liés à autre chose. Donc il y a à peu près un consensus, j'ai mis quelques extraits ici, pour dire que c'est un terme qu'il ne faut pas garder, pour quelques raisons que j'ai un petit peu expliquées. Je me suis livré à l'après pour savoir, mais donc ces symptômes c'est quoi? Tout le monde peut le faire, il y a des sites internet avec des questionnaires en ligne où les promoteurs de cette vision de la maladie de Lyme disent bah, « testez vous-même si vous êtes atteint ou pas de la maladie de Lyme ». Donc je me suis amusé à répondre au questionnaire, mais vous pouvez le faire en ligne, où j'ai répondu, je veux dire, de manière à peu près honnête, c'est-à-dire comme tout le monde, j'ai, je veux dire, parfois mal au dos, parfois fatigue, enfin des tas de symptômes, je veux dire, qu'on rencontre largement. Je trichais peut-être à un endroit, j'ai dit que j'habitais en Alsace, parce que pour eux, c'est l'Alsace, c'est une région endémique, j'aurais pu mettre l'Occitanie, j'ai bien compris, mais pas le Languedoc-Roussillon. Donc voilà, pour dire que j'étais dans une région, oui, où visiblement il y en a plus, et à la fin... Qu'est-ce que me donne le diagnostic? Il y a de fortes probabilités que vous souffriez de la maladie de Lyme et vous devriez vraiment aller voir un médecin. C'est la conclusion. Si vraiment je mets quasiment non à tout, ça devient, il est possible que vous souffriez de la maladie de Lyme, vous devriez consulter un médecin. Et pour vraiment ne rien avoir, il faut dire que tout est parfait, jamais mal au dos, etc. Donc là, on est sur Internet. Faites le test, hein, vous allez voir, et puis amusez-vous à changer après une ou deux variables. On est, bon, je ne sais pas si vous arrivez à lire du fond, mais les symptômes sont très variables. Hein. Désorientation, je me perds ou je ne vais pas au bon endroit, difficulté à parler ou à écrire, gonflement d'une ou plusieurs articulations, ça pourrait effectivement plus faire sens. Toux, essoufflement, saute d'humeur, irritabilité, effet aggravant de l'alcool, enfin on a, je veux dire, une liste à la Prévert. Et alors, vous allez sur le site, toujours pour rester sur cette maladie de Lyme chronique de l'ILAS, il donne des recommandations aux patients, et je pense que bon nombre de services hospitaliers en voient les conséquences aujourd'hui. Ils disent, en gros, quand vous allez voir le médecin, n'oubliez pas de lui dire, quand vous avez fait ce questionnaire, avez-vous bien pensé à la maladie de Lyme, monsieur le médecin? C'est écrit noir sur blanc hein, sur leur site. Ils expliquent pourquoi, parce que la maladie de Lyme est souvent mal diagnostiquée. On va vous dire que vous avez une sclérose en plaques, mais c'est pas vrai, vous avez la maladie de Lyme. On va vous dire que vous avez une fibromyalgie, mais c'est pas vrai, etc. Donc, interrogez vraiment votre médecin. Si le médecin ne donne pas la réponse « oui, c'est maladie de Lyme », allez en voir un autre. C'est dit noir sur blanc. Prenez un deuxième avis, un troisième avis, surtout si vous êtes symptomatique et votre médecin conseille de ne pas traiter. D'ailleurs, en gros, tant que vous éprouvez des symptômes que j'ai dit juste avant, si votre médecin ne veut pas reconnaître que c'est Lyme et vous donner le traitement de Lyme, allez en voir un autre. C'est dit ouvertement. Et vous ne devriez pas accepter la pratique consistant à arrêter le traitement antibiotique avant que vous ne soyez bien. Donc on voit bien, je veux dire, la logique, c'est-à-dire que tant qu'on a l'un des symptômes que j'ai décrit avant, continuez les antibiotiques. C'est ce qu'ils mettent sur leur site, hein, j'ai mis un extrait, mais enfin vous allez y retourner, c'est dans 10 recommandations pour éviter de traîner votre Lyme chronique. Alors la réalité, je ne comprends pas, c'est exactement l'étude que vous avez donnée. Je veux dire, ça veut dire que la conséquence de ça, c'est qu'y compris en France, c'était avant en plus aux États-Unis, on voit des tas de gens qui vont dans les services hospitaliers et qui disent « Docteur, j'ai la maladie de Lyme, traitez-moi ». Et pour avoir discuté à pas mal de vos collègues, certains disent « Bon, peut-être, on va regarder. Non, non, docteur, j'ai la maladie de Lyme. » Et si à la fin, le médecin va dire « Peut-être c'est autre chose pour garder, vous avez quelque chose. Non, j'ai la maladie de Lyme. C'est des situations qu'on rencontre, alors que la réalité, donc ça a été donné à des études en France, mais on a la même, je veux dire, dans des études qui ont été faites, je ne sais plus si c'est aux États-Unis ou au Canada, on retrouve les mêmes taux au niveau international. Donc on a créé une situation finalement où des tas de gens ont un vrai problème, enfin ont une vraie affection, en tout cas, je veux dire, souffrent de quelque chose, mais on veut à tout prix les orienter vers Lyme, on va voir la logique qui est derrière, et à tout prix les orienter vers Lyme, alors que l'ensemble des études, quand on prend la définition qu'on donne de Lyme, montre que les gens qu'on retrouve dans les services hospitaliers sont, je veux dire, une quinzaine de pourcents à avoir Lyme. Alors, deuxième aspect, j'avais dit, hein, de cette mécanique, c'est les tests. Je veux dire, si on veut à un moment dire qu'il y a un vrai scandale sanitaire et une maladie de Lyme chronique qui n'est pas prise en compte par les autorités, il faut quelque part dire que les méthodes mises en œuvre ne valent rien du tout. Donc c'est ce que Lila fait, bien sûr, pour dire en gros les tests, quels qu'ils soient, ne valent rien, c'est comme jouer votre vie à pile ou face. Il dit clairement, ça ne vaut pas plus. Et ils apportent un certain nombre d'arguments à l'appui, dont des études scientifiques, et c'est ça qui est aussi, un aspect tout à fait intéressant pour notre réflexion ici, c'est qu'il ne faut pas croire que dans ce genre de controverse, et c'est vrai sur tous les sujets, que ce soit l'homéopathie, le climat, tout ce que vous voulez, il n'y a pas d'un côté ceux qui, de manière évidente, vont dire voilà la science, et les autres qui vont raconter n'importe quoi. C'est tout un exposé qu'on pourrait faire sur ce qu'est la vérité en médecine, la question de la pyramide des preuves, de comment on prouve que des choses sont vraies, et donc bien sûr, il y a un certain nombre d'études qui sont faites, mais je me suis amusé, et il faut voir que dès qu'on veut décortiquer les arguments dans les controverses, c'est parfois très long et très compliqué. Là, ils ont dit, regardez, j'ai une étude qui dit, alors je ne trouve pas le chiffre, mais grosso modo, la moyenne de l'efficacité des tests est très mauvaise, mais ils mettaient dans le même sac de l'étude tout stage de la maladie confondu. Or, les recommandations disent très clairement que dans le stade numéro 1, il n'est plutôt pas recommandé de faire ces tests parce que les anticorps n'ont pas le temps de se faire et que vous allez être faussement négatif. Donc, ils ont mis dans le même sac, tous les stades, alors que dans d'autres phases de la maladie, les tests sont plus fiables, même s'ils ne sont pas toujours suffisants, ils ne sont pas suffisants à eux seuls pour, comme ça a été dit tout à l'heure, diagnostiquer ou pas la maladie de Lyme. Et puis, on a, encore une fois, comme dans toute controverse, des tas de rumeurs qui circulent. Donc, les partisans de l'ILATS en France et Christian Perron propagent par exemple cette idée qu'en fait, et là on est vraiment quelque part dans une sorte de théorie du complot, les tests ont été fabriqués spécialement pour faire qu'il n'y ait pas plus de 5% de malades de Lyme au niveau national. Donc c'est dit très clairement, le test ELISA a été calibré délibérément pour que la maladie de Lyme reste officiellement une maladie rare, ajoutant d'ailleurs que si vous allez à Paris ou à Strasbourg, le test ne sera pas le même, parce que comme ce n'est pas la même prévalence de la maladie, on a ajusté les tests pour qu'ils ne donnent pas le même résultat à un endroit ou à un autre. Bon, d'une part, ça tient pas debout parce que, les tests à Strasbourg, à Lille et même en Allemagne, etc., c'est les mêmes, sont validés au niveau européen. Mais, ça a été intéressant de trouver d'où vient la rumeur. Et la rumeur vient d'un vrai article de presse de scientifique qui dit complètement autre chose. Mais ce qui a été interprété, les 5%, c'est le seuil pour éviter les faux positifs, c'est-à-dire c'est un seuil tout à fait classique et réglementaire quand on calibre des tests, mais ce seuil de calibrage de tests a été utilisé dans toute la rhétorique que vous allez trouver sur Internet sur il y a un complot qui a fait volontairement des tests qui sont complètement biaisés parce que ce qu'ils voulaient, c'est qu'il n'y ait pas trop de Lyme en France. Alors, si les tests ne sont pas bons, et encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'ils sont bons à 100%, ça a été évoqué avant, ils ne révèlent pas assez de cas pour corroborer l'exposé qui est fait par les tenants de cette maladie de Lyme chronique non reconnue, on va soit abaisser le seuil de sensibilité des tests. Donc, vous l'avez évoqué, deux laboratoires, enfin au moins un j'ai en tête en France, a été condamné pour avoir un peu trafiqué les tests. On appelle les tests vétérinaires à la rescousse, mais qui n'ont pas les mêmes validations, en tout cas n'ont pas été conçus pour l'homme. On va se faire passer, entre guillemets, pour un chien, pour pouvoir faire l'analyse de son sang et se revenir avec le test en disant « ça y est, j'ai été diagnostiqué ». On a encore des tests complètement rejetés, du point de vue scientifique. Le test, par exemple, dit de la goutte épaisse, qui consiste à regarder au microscope si on ne voit pas des fois les petites bactéries directement. Des tests urinaires, qui sont encore promus par un certain nombre d'associations. Donc, vous avez la floraison de tests alternatifs et qui ont mené, je ne vais pas rentrer dans le détail, aux États-Unis à des condamnations, à des labos qui ont été interdits de développer leurs tests, des labos très proches de l'ILAS, je pense à Igenex, parce qu'ils avaient fait des tests qui, disaient toujours du positif partout. Et puis, on arrive sur le troisième volet un petit peu de cette trilogie autour de la maladie de Lyme chronique, c'est-à-dire l'entité maladie de Lyme chronique qui ne serait pas reconnue par les autorités médicales, les tests qu'il faut forcément réformer si vous voulez faire rentrer votre entité nouvelle sur une réalité, et puis derrière, bien sûr, et c'est le fond de l'affaire, les traitements alternatifs. Alors, les antibiothérapies longues, les recommandations de l'ILAS le disent très clairement, il faut poursuivre l'antibiothérapie chez les patients qui ne sont pas complètement rétablis à la fin du traitement actif. Le retraitement antibiotique s'avérera approprié pour la majorité des patients qui restent malades. Donc, on est, et comme pour tous ceux qui n'ont pas réellement une maladie de Lyme, les antibiotiques ont quasiment toutes les chances de ne pas guérir leurs symptômes, on est dans des boucles infinies. Le consensus scientifique, j'y reviens un petit peu après aussi sur cette notion de consensus scientifique, sont unanimes pour dire que c'est non seulement inutile, mais dangereux. Et donc là, j'ai mis des tas d'exemples, que ce soit la Société de pathologie infectieuse en langue française en France, l'Institut au Royaume-Uni, le CDC américain, etc. Et ça s'appuie sur des tests, des expériences, des essais, contrôlés. Bon, il y en a eu un certain nombre, et aujourd'hui, le consensus est assez solide pour dire que ça n'a non seulement aucun intérêt, mais c'est dangereux. Les thérapies alternatives ne s'arrêtent pas là dans celles qui sont promues par tous les partisans de cette donc prétendue maladie de Lyme chronique au sens que je l'ai donné. Ça va donc bien sûr des antibiothérapies prolongées, au traitement hyperbare. Donc traitement hyperbare, c'est des caissons qu'on donne un peu, j'ai bien compris, aux personnes par exemple qui ont des problèmes en plongée. Donc on va mettre ces personnes en traitement hyperbare un certain temps. Des suppléments nutritionnels dans tous les sens. Des tas de choses, des ultraviolets, des thérapies photoniques, des champs électromagnétiques, la détoxification métallo-lourd, vénin d'abeille, cortisone, transplantation de cellules, hormones, sous forme d'intraveineuse, tout ce que vous voulez. Et c'est pas marginal. Allez sur toutes les cliniques, j'en dirai un mot sur une en Europe, mais enfin qui se proclament spécialisées dans le traitement de la maladie de Lyme, vous avez tout ce cocktail. C'est en particulier le cas de la première que je vous ai mentionnée au tout début, celle où il faut recueillir près de 200 000 euros en 2 ans pour le pauvre petit garçon qu'on envoie, c'est pour subir tous ces traitements dont aucun, rappelons-le, n'a été positivement évalué, et un certain nombre sont reconnus comme pouvant être potentiellement dangereux. Alors derrière, et je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails parce que c'est un sujet qui est tellement à la fois complexe mais intéressant pour le genre de discussion qu'on a sur les controverses médicales et scientifiques. Derrière, une grande théorie est promue par Christian Perron, par une association où on a un prix Nobel qui s'appelle Montagnier, Chronimed et d'autres, c'est qu'en fait il y aurait des crypto-infections ou des infections froides, c'est-à-dire des crypto-infections, des infections cachées. Les citations sont de Christian Perron dans son livre. C'est un ensemble de maladies mal connues à des infections cachées. Ça serait le chaînon manquant quelque part entre Pasteur et Freud, où le psychisme peut moduler l'évolution des symptômes. Alors on aurait en gros toutes les maladies dont on ne sait pas trop bien attribuer une cause. La vraie cause que la science officielle ne trouverait pas, c'est qu'en fait il y a une infection derrière cachée, et on pourrait comme ça éclairer non seulement la maladie de Lyme, mais l'autisme, la schizophrénie, la maladie d'Alzheimer, et probablement des tas de manifestations diverses dans de nombreux champs de la médecine qu'on attribue aujourd'hui comme étant autre chose que des maladies infectieuses. Donc vous avez tout ce background théorique. Alors, ça c'était pour poser un peu les termes de la controverse, telle qu'elle est là. Vous allez voir que maintenant il y a une phase beaucoup plus sombre de cette controverse. Alors d'abord, avant d'y rentrer, y a-t-il une guerre d'expertise ? Alors je fais une diapositive parce que, elle n'est pas toujours connue dans le grand public, et c'est normal. C'est qu'est-ce qui fait à un moment donné qu'en santé, en environnement, on peut dire que quelque chose est vrai, alors on peut mettre ou pas des guillemets à vrai, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on croit que le vaccin protège de la rougeole quand on le donne, enfin voilà, qu'est-ce qui permet aux scientifiques de croire, d'affirmer que quelque chose est vrai plutôt que pas vrai. Et donc on a une pyramide de niveaux de preuves qui sont un petit peu un étalon, alors j'ai pas le temps d'entrer là-dedans, qui est perfectible, hein, qui a ses limites, qui a ses défauts, mais qui est une boussole indispensable aujourd'hui si on veut une médecine fondée sur les preuves. La première, c'est de dire que le témoignage n'a strictement aucune valeur scientifique. Alors, il a une valeur individuelle. Quand vous allez voir votre médecin, c'est votre témoignage. Si vous dites que vous avez mal et que vous allez mieux ou moins bien, c'est votre témoignage, c'est fondamental. Mais pour établir la valeur scientifique de quelque chose, le témoignage ne vaut rien. Il peut servir à quelque chose, il peut orienter. Je veux dire, orienter une recherche. Si vous ratez des symptômes un peu bizarres suite à la prise d'un médicament, ça ne prouve rien, mais ça peut inciter à faire une recherche là-dessus. Donc le niveau du témoignage n'a aucune valeur scientifique. Et puis là-dessus, je ne rentre pas dans le détail, il y a des pyramides de niveau de preuve, c'est très caricatural pour les personnes qui connaissent, mais grosso modo, au premier niveau, vous avez des études d'observation. Je compare des gens qui ont la maladie et puis d'autres qui ne l'ont pas, et j'essaie de retrouver qu'est-ce qui peut bien expliquer ces différences. Ou au contraire, je les suis dans le temps, c'est une cohorte, donc je suis dans le temps et puis je vous rends bien compte que certains tombent malades et d'autres ne tombent pas malades, et donc j'essaie de le relier à des facteurs que j'avais enregistrés avant. Donc c'est ce qu'on appelle les études d'observation. Ils peuvent avoir, je veux dire, dans certains cas, une valeur tout à fait probante et intéressante. Au-dessus, on a un autre niveau de preuve, c'est schématique, qui sont les essais cliniques. Donc typiquement, je fais une expérience, à un groupe je donne quelque chose et à l'autre groupe je lui donne rien, un placebo typiquement. scientifiquement, c'est comme ça qu'on teste un certain niveau des médicaments. Et puis tout en haut de la pyramide des preuves, on a ce qu'on appelle l'expertise collective, la synthèse, qui celle, quelque part, elle ne produit pas de nouvelles connaissances en soi, elle regarde l'ensemble des études, et selon une méthodologie, essaye de dire, ben voilà, de l'ensemble des études, je suis capable de dire que ceci est plutôt vrai, ceci est plutôt faux, ou j'en sais strictement rien, ou c'est contradictoire. Et donc ce que font essentiellement les agences sanitaires, c'est ce genre de travail. C'est des méta-analyses, et donc on peut dire, c'est schématique, mais c'est une boussole, tout ce qui est du niveau du témoignage a une valeur scientifique, tout ce qui est au contraire tout en haut a quand même plutôt une force de consensus. Alors il faut regarder dans le détail sur quoi ça s'appuie, c'est encore une fois très schématique. Et donc, si je reprends sur les guidelines proposés par l'ILAS, est-ce qu'il y a vraiment une guerre d'expertise ? Non. L'ILAS a proposé en 2004 une première version de guidelines, donc de recommandations, qu'elle a publiée hein, dans des revues scientifiques, etc. Et elles ont été évaluées, en particulier par un panel mandaté par l'Agence de santé britannique, qui a examiné l'ensemble des recommandations et qui a dit « elles sont mal construites, ce n'est pas une approche fondée sur les preuves scientifiques », et puis ils expliquent pourquoi, et les références qui ne valent pas, etc. Donc les guidelines de l'ILAS, donc les recommandations de l'ILAS version 1, ont été évaluées et jugées comme très mal construites scientifiquement. Il y a une version numéro 2 2014 où l'ILAS a d'ailleurs publié, je ne rentre pas dans les détails, mais on arrive aux mêmes conclusions. Confrontés à la littérature scientifique, les preuves sont très faibles sur l'échelle de gradation internationale grade, c'est-à-dire en gros au plus bas de l'échelle. Donc typiquement les recommandations telles que l'ILAS ou la Fédération française des maladies vectorielles et éthiques en France le recommande sont basées sur un niveau de preuve qui est nul, on va dire un terme tout à fait poli, à travers les évaluations qui sont faites. A l'inverse, les recommandations que les détracteurs appellent officielles, et encore une fois, qui ne sont pas des recommandations figées, qui évoluent. Il y a une première version en 2006, elles ont été réactualisées, elles sont en cours de réactualisation, je veux dire, on l'a évoqué, mais elles sont consensus au niveau international, d'une part, et elles ont été publiées, évaluées. Je ne rentre pas dans le détail là-dedans, c'est que, bien sûr, une partie de la controverse se déplace sur le terrain judiciaire. L'ILAS a attaqué l'association de la savante aux États-Unis sur ces guidelines juridiquement en disant que c'était violait la loi antitrust parce que leurs recommandations étaient présentées comme valides et donc ils estimaient que les leurs aussi. Ils avaient accusé l'ITSA, donc l'association de savante aux États-Unis, d'avoir une approche non scientifique biaisée sélective. Il y a eu toute une démarche d'évaluation qui a été faite et qui a reconnu que les évaluations des sociétés savantes américaines sur le sujet étaient tout à fait valides, fondées, etc. Je rentre pas dans le détail, on a écrit des articles, mais pour dire que non, il n'y a pas de guerre d'expertise entre ces deux recommandations. L'une est clairement dans cette approche méthodologique que je vous expliquais, rejetée par la communauté scientifique, et l'autre, celle qui évolue, hein, encore une fois, elle n'est pas figée, mais je veux dire, les grandes lignes de 2006 sont quand même, pour un certain nombre, toujours là, sont régulièrement validées. Alors, je ne rentre pas là-dedans, mais c'est quand même quelque chose qui est une partie de la controverse. Elle se déplace sur le terrain législatif, judiciaire. Aux États-Unis, c'est complètement fréquent, donc ça va de d'États fédéraux qui vont reconnaître le remboursement des traitements farfelus que je viens d'expliquer, de tentatives d'avoir la prise en charge des recommandations de l'ILAS. Dans un État, on a essayé aussi d'avoir l'obligation de présenter à égalité les hypothèses, recommandations de l'ILAS et les recommandations, des scientifiques. Ça fait penser, pour ceux qui connaissent la controverse autour de la théorie de l'évolution, quelques États américains avaient voté le fait que dans les écoles, il fallait présenter à égalité les théories de Darwin et les théories créationnistes au même niveau, parce que c'était toutes les deux des hypothèses scientifiques valides. Donc on a le même genre d'opération là-bas. On pourrait croire que c'est qu'aux États-Unis. Je ne rentre pas dans le détail, ce qu'il faut quand même avoir, c'est pas parce qu'un législateur décide quelque chose que ça fait valeur scientifique. On a des choses tout à fait rigolotes ou moins rigolotes sur le sujet. Rigolote, c'est le nombre pi. On a il y a longtemps un projet de loi dans les Ghana qui a failli aboutir pour simplifier le nombre pi, parce qu'un nombre pi rationnel c'est un peu compliqué. Donc les législateurs avaient proposé de dire que c'est 3,2. Ça simplifiait quand même beaucoup les choses et ça a failli passer. Même si c'était passé, on peut dire que le nombre pi, lui, restait, ça, c'est pas eux. Réchauffement climatique, le Sénat américain a voté en 2015 que les causes anthropiques n'y étaient pour rien. Bon, ça change rien, la science suivra son chemin. Et il ne faut pas croire que ce n'est pas le cas en France. Très récemment, donc 25 septembre 2019, un projet de loi a été déposé par 80 députés de toutes tendances visant à étudier la reconnaissance de la chronicité de la maladie de Lyme. Et vous prenez tout le texte, il fait référence explicitement à tout ce que je viens de vous dire sur l'ILAT. Donc la controverse se mène aussi au Parlement, où régulièrement vous avez des députés qui saisissent la ministre de la Santé en disant « c'est pas normal qu'on ne prenne pas ça en compte », etc. Donc vous avez une controverse. Elle prend aussi, j'ouvre une petite parenthèse parce qu'on s'éloigne des débats scientifiques, mais la forme de pression, de menace, d'interdiction. Celle-là, j'en étais quand même assez directement concerné. Il se trouve qu'on est une douzaine en France à avoir reçu des cartes de menace. Nous avions nos photos sur le site où il suffisait de cliquer pour découvrir le visage des gens nous connaissons le visage de vos souffrances. Donc si vous êtes porté très très mal, il faut voir qu'un certain nombre de personnes sont vraiment très mal en point. Voilà les responsables, 12 personnes. Alors j'avais l'honneur d'être en présence de 10 illustres infectiologues, dont deux membres de l'Académie de médecine. Mais enfin, ça nous a valu quand même, un certain nombre de cartes, de menaces, etc., dont pour certains, pour ne pas le nommer le professeur Gentilini, à son domicile personnel. Donc on a quand même, des menaces et des pressions, j'ai donné d'autres exemples, mais qui montrent que cette controverse n'en reste pas complètement sur le terrain scientifique. Ça, c'est pour la petite histoire, mais enfin, il y a quand même des conséquences. J'ai eu le plaisir de recevoir une lettre personnelle de Agnès Buzyn disant qu'elle trouvait ça scandaleux et qu'elle exprimait la solidarité. On a tous reçu la même lettre. Et c'est à la suite de ça que l'association qui est encore à l'œuvre aujourd'hui dans toutes ces menaces et ces pressions, a été exclue de la concertation. Donc on peut le prendre à l'envers. Ça veut dire qu'on imagine des associations dont les méthodes sont celles-là, elles sont toujours celles-là. Elle a pendant un an et demi, ou pendant très longtemps, siégé dans la concertation qui a mené à l'espèce de chose très ambiguë dont on a parlé à la fin. C'était directement cette association qui a été exclue suite à ces menaces-là. Les pressions sont régulières, c'est pour ça que ça m'est arrivé de faire un certain nombre de conférences autour de la maladie de Lyme, mais j'aime bien le faire en présence d'un médecin, parce que d'abord, fondamentalement, l'éclairage qui est donné, c'était passionnant, est indispensable, et puis, je n'ai pas de légitimité médicale à expliquer les choses, mais on avait fait, Mairie du 5e, une conférence avec le professeur Eric Combe, que vous aviez mentionné, chef de service à Pitié-Salpêtrière. La mairie qui accueillait la réunion a eu des menaces d'être d'avocat, interdiction, nous avons eu des menaces, on nous a dit si vous maintenez votre réunion, on viendra en groupe, etc. La réunion a été maintenue, elle s'est passée correctement, mais ce n'est pas toujours le cas. Une réunion à l'Institut Pasteur, organisée par une autre association d'information scientifique, qui est la FAS, peu importe, a été annulée suite à ces pressions, que bon nombre de réunions sont régulièrement annulées sur la base des pressions, et donc ça, c'est le lot quotidien de cette controverse. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais je donne des tas d'exemples de lettres qui sont systématiquement envoyées dès que quelqu'un organise une réunion sur la maladie de Lyme, qui n'a pas l'honneur d'aller dans le sens des théories de l'ILAS. Alors, il se trouve que peut-être celle-là ici est passée à travers les mailles, elle n'a pas été suffisamment annoncée sur la place publique, mais sinon vous auriez reçu... et les menaces vont bien sûr jusqu'à des insultes, des menaces, et ainsi la chef de service de Poitiers a été en procès avec toujours la même association pour insultes et intimidation. Elle a gagné son procès pour une partie sur les injures, voilà. Alors, toujours sur la face cachée, après je reviendrai pour terminer sur quelques conclusions, mais finalement c'est quoi l'ILAT, c'est les Lyme Doctors qui sont derrière, et qu'est-ce qu'on voudrait quelque part, en tout cas ceux qui font la promotion de ça en France et en Europe, voudraient probablement faire. Il ne s'agit pas, alors c'est toujours une question délicate, la question des liens d'intérêt. C'est toujours un peu la tarte à la crème dans les controverses, c'est-à-dire qu'on est en désaccord avec un argument, on ne critique pas l'argument, mais on critique la personne. Et on critique la personne en disant « oui, mais un jour, il a serré la main, il a dit de etc. » Donc, nous, on est les premiers à contester cette chose, c'est-à-dire que c'est deux choses différentes. On discute d'abord les arguments, quelle que soit la personne qui le dit. Après, la question des déclarations d'intérêt, elle est tout à fait normale pour savoir qui parle, mais elle n'invalide pas forcément le discours. Et je pense que tout ce que je vous ai expliqué, c'était pour vous expliquer le discours. Enfin, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que quasiment tous les dirigeants de l'ILAS, au moment où j'ai fait cette enquête, c'était il y a deux ans, sont directeurs de clinique, de cabinet spécialisé dans la maladie de Lyme aux États-Unis. C'est-à-dire de clinique, vous allez sur le site, nous traitons la maladie de Lyme à des prix extraordinaires, du genre des 20 000 euros par traitement dont j'ai parlé tout à l'heure. Quasiment tous sont leur clinique privée. En France, ça serait impensable. C'est pas le cas en France, parce que c'est réglementé autrement. Donc là, je donne quelques exemples, mais ils ont tous leur clinique privée qui mettent en charge soit la maladie de Lyme, soit les fameuses infections cachées. On va traiter aussi bien l'autisme, la maladie de Lyme et des choses comme ça. Vous avez la même chose en Allemagne, ça s'appelle la clinique de Augsbourg, où pas mal de détracteurs de la médecine dite officielle en France disent « allez vous faire soigner dans la clinique là-bas ». Et vous retrouvez donc une clinique qui est pareil, qui est pilotée et dirigée par des membres tout à fait majeurs de l'IDAS au niveau international, traite plus de 2000 patients par an, recommandée par toutes les associations en France, et qui propose la même chose, l'approche holistique, des traitements antibiotiques prolongés, intraveineuses, avec quelques photos à droite, fait des tests faux positifs, il y a même une, comment dire, ça ne prouve rien, parce que là, encore une fois, on est sur le témoignage, mais une télévision danoise, je crois, quelqu'un dans la salle qui pourrait mieux me renseigner, mais danoise, avait, pour faire une enquête, pour une fois une enquête un peu critique, avait envoyé des prises de sang de ces journalistes, qui a priori ne sont malades de rien, de cette journaliste de mémoire, à la clinique en disant « qu'est-ce que j'ai ?» Et les tests sont revenus en positif, maladie de Lyme, alors qu'ils n'avaient a priori rien, ils souffraient de rien du tout. Donc ça montre un petit peu toute cette industrie qui s'est mise là-dedans. Et on a des traitements longs et coûteux qui sont hallucinants. C'est-à-dire, et ce qui est même rigolo, c'est que là j'ai mis les coordonnées, il y a un site des gens qui sont passés par la maladie de Lyme, qui sont passés par cette clinique, et qui en reviennent à la fois toujours convaincus de ces théories alternatives, mais écœurés par ce qu'ils ont vu. Ils ont dit, c'est inhumain, on ne prend pas en charge, on ne prend que notre argent, on n'arrête pas de payer le traducteur, le machin, etc. Mais pourtant, ils restent toujours, persuadés qu'ils ont la maladie de Lyme chronique et que personne ne s'occupe d'eux. Je donne là aussi une série d'exemples parce qu'ils sont tout à fait significatifs. Une très grande partie des médecins responsables de l'ILAS ont été condamnés pour pratiques frauduleuses dans leur métier, et pas pratiques frauduleuses, parce qu'on pourrait dire, ça arrive à toutes sortes de médecins, mais en lien avec cette théorie de la maladie de Lyme, par exemple, pour certains, parce qu'ils n'ont pas diagnostiqué, malgré les évidences, une sclérose en plaques, et que les gens ont développé leur sclérose en plaques alors que les traitements n'étaient pas bons. Donc je donne des tas d'exemples, il y en a encore un qui est tombé il y a quelques mois, que je n'ai pas rajouté dans la transparence, mais grave défaillance de la prise en charge, inadapté avec un régime croissant d'antibiotiques, non suivi d'un diagnostic précédent de symptômes suggérant une sclérose en plaques, etc. Donc voilà, je crois que je le mets un petit peu après, donc c'est, très très fréquent. Certains, c'est pas simplement des mauvaises conduites, c'est carrément de la fraude. Un des anciens présidents d'ILAS, qui je crois il y a un an ou deux s'est complètement brouillé avec l'association, mais enfin c'est l'un des auteurs des recommandations de l'ILAS, avait été condamné sur une fraude sur un article sur le sida. Il avait publié dans les années 93 un article qui a été rétracté, où grosso modo il expliquait que le sida ça ne touche que les homosexuels, la preuve, les données que j'ai là montrent que c'est les homosexuels qui ont le sida et pas les autres, et l'étude a montré qu'il avait trafiqué les données pour faire passer ça. Il a été également très acteur dans la propagation d'une rumeur autour du vaccin et de la polio sur la pandémie de sida pouvait provenir d'un vaccin anti-polio qui aurait contaminé des gens en Afrique équatoriale, et cette théorie du vaccin contaminé pèse énormément aujourd'hui. Il a été l'un des propagateurs de cette idée-là, toujours avec les mêmes théories sous-jacentes derrière sur les infections cachées, etc. Alors, je voudrais terminer après, parce que je trouve que ce panorama de la controverse est très riche, et ça rejoint des choses que vous avez évoquées. On pourrait se dire, mais pourquoi Lyme? Pourquoi pas autre chose? Et qu'est-ce qu'il fait à un moment donné? C'est quoi le mécanisme qui fait que les gens tombent sur Lyme? Alors, il y a exactement, et c'est vraiment ce que vous avez dit avant, mais certaines études l'ont croisé, d'abord, il y a un vrai marché de l'errance thérapeutique, c'est-à-dire que le point de départ, c'est qu'il y a des gens qui sont en errance thérapeutique pour des raisons qui peuvent être très variées. Ça peut être qu'ils sont mal pris en charge par le système de soins, ça peut être qu'ils ont des pathologies compliquées et que la médecine ne trouve pas la réponse, ça peut être que des fois elle donne une mauvaise réponse, ça je ne me prononce pas là-dessus, mais il y a aussi des symptômes très courants qui touchent une large proportion de la population. Là c'est une étude sur aux États-Unis, mais le mal de tête, migraine sévère, mal au bas du dos, douleur du cou, genou, épaule, doigt, etc. touche une très grande frange de la population. Et si vous allez regarder sur le tableau que j'ai mis au début, c'est typiquement les symptômes qu'on retrouve dans le Lyme chronique tel que les définissent les promoteurs de cette vision-là. On trouve des symptômes très très similaires dans ceux qui souffriraient de l'aluminium dans les vaccins. Là, j'ai toujours du mal à prononcer le mot, la macrophagocytémie œsophage. Voilà. Je ne suis pas médecin. Myofasciite, voilà, pas macrophage, justement, myofasciite à macrophage. Et donc, quand vous regardez la description, et encore une fois, il ne s'agit pas de critiquer ou de se moquer, loin de là, c'est des personnes qui souffrent et qui n'ont pas de réponse. Mais par contre, la critique peut être sur ceux qui veulent à tout prix les envoyer dans une impasse thérapeutique. On retrouve la même chose sur l'hypersensibilité aux ondes de la téléphonie mobile. C'est les mêmes symptômes, à tel point d'ailleurs, je crois que je le marque là sous forme d'anecdote, mais Christian Perron dans son livre, il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à Christian Perron, c'est la position sur les vaccins. Il a toujours été carré sur les vaccins, mais c'est intéressant ce qu'il disait sur l'aluminium justement. Il disait, tous ceux qui veulent critiquer les vaccins avec l'aluminium se trompent, les vaccins c'est sérieux, ça marche, les effets secondaires sont quand même bien limités, etc. Tous les gens qui ont cette fameuse maladie voilà, que j'ai citée à l'instant, myofasciite à macrophage, voilà, c'est écrit là-dedans, en fait, c'est pas vrai, ils ont Lyme. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que tous ceux que j'ai vus dans mon service qui se plaignaient de ça, je les ai soignés pour Lyme et ils sont vachement plus contents. Donc, on voit bien qu'on joue sur les mêmes symptômes et donc on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui fait à un moment donné que ça va se fixer sur Lyme ou sur autre chose pour conduire toujours, et ça c'est important, à éloigner les patients d'une vraie prise en charge. Et c'est ça le drame. C'est-à-dire qu'on a des patients qui vont mal, qui vont peut-être aller encore plus mal, et que pour un certain nombre, je ne dis pas pour tous, il pourrait y avoir, au regard de l'état des connaissances scientifiques, une prise en charge qui pourrait, sinon les guérir pour certains, au moins les leur faire aller mieux. On les envoie dans des impasses où ils vont aller de plus en plus mal, et donc ils seront d'autant plus convaincus dans ce cercle vicieux que c'est la non-reconnaissance par la médecine officielle. Alors, là, vous aurez ça dans le diapo, c'est les symptômes sur l'électrosensibilité, l'hyper-électrosensibilité, c'est-à-dire la sensibilité aux antennes relais, aux ondes ou à Linky. Vous retrouvez exactement la même chose que Lyme, hein, c'est lisible au fond. Sommeil perturbé, nervosité, sifflement des oreilles, saignement du nez, irritabilité, dépression, inquiétude, anxiété, douleur rhumatismale, articulaire, vous retrouvez tout, c'est les mêmes. Donc, et d'ailleurs, Christian Perron et les gens de la FFMVT, Fédération Française des Maladies Vectorielles Atypiques, ne disent pas le contraire. Vous avez même d'ailleurs, enfin, j'ai pas le temps d'entrer là-dedans, mais un certain nombre de pratiques tout à fait scandaleuses autour de ça. Et très rapidement, je voudrais montrer deux diapositives qui sont intéressantes d'une étude. Alors, c'est une étude n'est pas la vérité absolue, mais sociologique qui s'est intéressée sur le cheminement que peuvent avoir des patients qui se disent victimes des ondes et d'une électro-hypersensibilité. Et je pense que ça pourrait tout à fait s'appliquer, à Lyme. Qu'est-ce qu'ils disent? En gros, à un moment donné, ils ont des symptômes, première étape. La deuxième, c'est qu'ils ne trouvent pas de solution médicale. Or, pour tous ces mots un peu diffus dont j'ai parlé, qu'un certain nombre ont ici, hein, moi le premier, bah, des fois, on n'a pas la réponse, on vit avec, ou on essaie voilà. Donc on recherche un traitement, des médecins, rien d'efficace, pas de diagnostic conventionnel, impossibilité d'endosser le rôle du malade. Et ça c'est important, on aime bien quand on est malade, avoir un nom sur la maladie, dire je souffre de ça, et on me dit ok, c'est plus ou moins curable, il y a ça, mais quand on vous dit, on ne sait pas trop, c'est plein de choses, etc., c'est pas satisfaisant. Donc il y a toujours cette recherche forcément, et c'est logique, de trouver cette explication, au moins le nom de la maladie dont on souffre, et cette sensation d'abandon, d'angoisse, voire de stigmatisation, si vous dites à des gens, j'ai une maladie, mais les médecins sont incapables de me dire ce que j'ai, donc on va dire, ouais, d'accord, c'est dans ta tête, t'as rien de sérieux. Donc la prise au sérieux est un des moteurs, je dirais, de ces personnes-là, et on comprend tout à fait. Et puis un jour, donc c'est l'analyse sociologique, hein, la personne qui a fait ça a procédé sur des entretiens, des analyses, etc., tombe sur une description de l'hypersensibilité aux ondes et qui leur semble expliquer sa maladie. Elles se reconnaissent dans le témoignage d'un tel, un tel qu'ils ont vu à l'atelier. Ils expliquaient, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Et c'est comme une révélation à un moment donné. Et du coup, ils ne sont pas encore complètement convaincus jusqu'au bout. Ils se disent, c'est exactement ça. Et donc, recherche frénétique sur Internet. Puis Internet, on tombe dans quelque chose de très connu. On trouve tout ce qu'on veut sur Internet et surtout ce qui va renforcer la croyance. Biais de confirmation très connu. Si vous tapez n'importe quoi danger, vous allez trouver toute une série de sites qui vont bien. Tapez danger ondes électromagnétiques, vous allez voir, tomber là-dessus. Tapez maladie de Lyme danger, vous allez tomber sur les questionnaires tels que je vous l'ai montré. Donc si vous avez déjà ces symptômes, vous allez dire c'est exactement moi. Donc la recherche effrénée d'informations sur le sujet sur Internet, arrive à se cristalliser sur les ondes, comme elle aura pu se cristalliser sur la maladie de Lyme, et on a un conflit émotionnel. Je souffre d'une maladie réelle, je suis pas fou, je sais que c'est pas dans mes rêves, on me la reconnaît pas, on m'a pas mis de nom, mais moi je sais que je souffre, et ils ont raison. Et pour tout ce qui va suivre, il y a un sentiment d'angoisse quand je dis les témoignages. parce que les témoignages sont angoissants. C'est des gens qui ont leur vie brisée, c'est des gens qui ont perdu leur travail, et on se dit, c'est ce qui va m'arriver. Donc ça, c'est les premières phases de, je dirais, du cheminement, qui est une hypothèse, hein, je ne dis pas que c'est l'explication. La conviction va se faire progressivement. On se comporte comme si, et donc on va avoir tendance à réduire l'exposition. Donc on va se comporter comme si, sur les ondes électromagnétiques, si on va avoir tendance à couper le Wi-Fi, couper les choses, on va, je veux dire, adopter un comportement. Or, sur la maladie Lyme, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais on va avoir tendance à suivre un certain nombre des recommandations qu'on voit. Et puis, on expérimente. Alors, sur les ondes, tiens, j'ai l'impression que quand j'ai coupé le Wi-Fi, je me sens mieux. Donc, on se fait de l'auto-expérimentation avec tous les biais qu'on peut connaître. Et puis, petit à petit, on arrive comme ça à être convaincu. Et à partir de là, on devient prosélyte, militant, etc. pour un certain nombre. Il est très probable, c'est une opinion, donc là-dessus, ça peut être faux, hein, mais que le mécanisme qu'on retrouve dans la maladie de Lyme, dans des tas de pathologies qui se nourrissent un peu du même mal-être, soit un petit peu celui-là. Donc, je vous donne des références, hein, de l'article. Voilà. Et pour terminer, donc pas rapidement, mais on est habitué à traiter des sujets un peu compliqués et controversés dans la revue Science et Pseudosciences, à la FIS, vous aussi, ici. Il y a une loi, bon, on lui a donné un nom, parce qu'on a bien donné un nom, c'était un informaticien italien, mais qui soulève une vraie question qui a été creusée depuis par peut-être le sociologue, l'asymétrie de l'argumentation. C'est-à-dire, dit en des termes un peu plus soft, raconter une ânerie sur Internet, ça vous prend 10 secondes. Dire que la maladie de Lyme, j'ai pas tout dit sur la maladie de Lyme, mais dire que la maladie de Lyme n'est pas reconnue par la science officielle, mais il y a aussi des tas de choses qu'on aurait pu développer, est transmise par voie sexuelle, est transmise de la mère à la fille, ça c'est porté par les associations aussi, hein, où ils vous sortent à chaque fois une étude. Mettre ce genre d'informations erronées, ça prend 10 secondes sur Internet, et ça va rentrer, ça épouse les biais de notre cerveau, où on est très réceptif à tout ce qui est message angoissant, tout ce qui est message anxiogène, et qu'on est plutôt imperméable à tout ce qui est message rassurant. Et donc la quantité d'énergie qu'il faut mettre pour démonter un argument, c'est extrêmement long par rapport au temps qu'il faut pour propager les choses. D'autant plus, c'est un deuxième volet de la symétrie, c'est que la manière dont on démystifie quelque chose, elle n'est pas radicale comme ceux qui accusent. C'est-à-dire que les gens vont dire les tests sur la maladie de Lyme ne valent zéro, rien du tout, c'est pile ou face. La réponse en face, c'est pas dire c'est pas vrai, ça vaut 100%, ce serait trop facile. C'est dire oui, il y a des fois où ça vaut pas. Il faut aussi une approche clinique, il faut, voilà, ça dépend. Enfin, il n'y a pas une réponse. Et donc, comme la réponse, elle est, dans la subtilité, dans la nuance qui est propre de la démarche scientifique, il y a une deuxième asymétrie, c'est que toute concession qui dit bah oui, c'est pas si simple que ça les tests, est vite perçue comme vous voyez bien, vos tests ils valent rien du tout. Et on est dans un système de controverse où il y a déséquilibre, et c'est ce qu'on a vu sur la controverse sur la maladie de Lyme. Je donne un exemple, j'ai vraiment pas le temps. Les anti-consensus officiels arrêtent pas de dire qu'aux États-Unis, la maladie de Lyme chronique est reconnue. Ils disent l'Institut des sciences, ils donnent des tas d'exemples. On les a vérifiés un par un, c'est faux. Mais le décortiquer, ça prend des heures, des jours. Je suis en contact avec un certain nombre d'infectiologues aux États-Unis, ça aide à trouver les choses, mais c'est jamais immédiat. Je pourrais en dépioter un exemplaire, on l'a fait dans la revue. Et donc pour terminer, on arrive à cette conséquence aujourd'hui, c'est que la Haute Autorité de Santé a produit des recommandations qui sont, je dirais, qui ont une qualité et deux défauts. La première qualité, c'est comme vous l'avez dit, elles ont fait avancer, il y a une réflexion, tout ça a obligé à faire avancer. Les deux défauts, c'est que c'est quand même un truc énorme, et certains ont fait remarquer que se dire est-ce que ça va vraiment aider les médecins. Et puis surtout, elle est arrivée à une sorte de compromis avec les associations qui ont porté tout ce que je viens de vous raconter, parce que les menaces étaient y compris dans les cercles de concertation. Enfin, on était vraiment dans une ambiance plus qu'électrique. Et donc, est arrivé à un compromis sur ce terme « maladie de Lyme chronique » qui fait que chacun en tire son interprétation. Si on prend par exemple les centres de référence que vous avez mentionnés qui se mettent en place, qui disent, en gros, c'est des centres de recherche, et on peut tout à fait imaginer qu'il y ait des protocoles dans le cadre d'une recherche donnée qui permettent de regarder les antibiotiques au long cours. Donc quand là, la lecture que moi j'ai faite, et visiblement pas mal de gens ont fait de ces centres de référence, disant les antibiotiques, pas au long cours, mais de dire sur une plus grande période, peuvent être encadrés dans le cadre d'un protocole de recherche, eux l'ont interprété autrement, en disant on a reconnu le truc, vous pouvez avoir des antibiotiques longs, il faut juste que votre médecin le fasse valider quelque part dans un papier là-bas. J'ai des écrits qui disent tout ça, donc il y a, je veux dire, voilà, la Haute Autorité de Santé a ouvert la porte à toute l'ambiguïté et à la continuation de ce genre de, je dirais, de controverse, même si on va trouver dans les partisans de cette controverse, hein, dans les détracteurs, des gens qui vont dire, vous voyez, la Haute Autorité de Santé reconnaît ce que je dis, et d'autres qui disent, elle n'a pas été assez loin, c'est ambigu, il faut autre chose. Donc on est là-dedans, et on arrive dans cette situation quand même assez unique, où 24 sociétés savantes ont dit, bah, désolé, on ne signe pas. Plongeant visiblement le ministère dans l'embarras, demandant donc à ces sociétés savantes de réécrire, en s'appuyant sur ce qui a été fait, des recommandations. Et donc la controverse est loin d'être fermée, parce que bah, je veux dire, toute la toile de fond est là. Voilà, donc c'est ce qui a été dit. C'est mon dernière diapo. Effet de bord, on commence à trouver parfois n'importe quoi, y compris dans le monde médical. On est tombé sur une thèse faculté de pharmacie. Donc j'ai saisi quelques contacts que l'avait l'Académie de pharmacie qui est en train d'enquêter. Apport de la naturopathie dans la prise en charge symptomatologique d'aborélieuse de Lyme. Et vous avez toutes les thèses de Lilas, complètement de A à Z en recul, en disant la naturopathie c'est très bien. 2017, validé par un. Pas 2017, oui, c'est ça, 2017, validé par un jury, dont une des personnes du jury est prosélyte de ce que je viens de vous raconter. Voilà, j'étais un peu long, mais je pense que c'est tout à fait complémentaire de tout ce qu'on a vu.
C'est 6 mois qui prend 6 mois d'échange.